toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce numéro 5 de Témoins Oculaires. Nous sommes ensemble pour une heure de direct sur les antennes de Radio Galère 88.4, en podcast et DAB+, mais aussi sur le site internet radiogalère.org. Il y a quelques années de cela, lorsque j'étudiais l'histoire du cinéma à la Sorbonne à Paris, mon prof de cinéma et histoire m'avait donné pour devoir le cinéma d'animation de propagande entre 39 et 45. Vaste sujet s'il en est, ce que ce travail aura aiguisé mon regard critique sur le dessin animé. La particularité que je trouve à l'animation, finalement, c'est que l'on peut mettre précisément ce que l'on veut, où on le veut, manipuler l'image à l'infini et toujours y transmettre une information précise si on le souhaite. Le dessin a ceci de particulier, c'est qu'il reste insoupçonnable. On le réserve habituellement à destination des enfants. Les couleurs, les musiques, les mondes extraordinaires, fantastiques, féeriques, souvent, nous amènent à baisser la garde. On prend plus les choses à la légère. Le dessin, que ce soit celui des petits ou des grands, ça reste quelque chose de mignon en somme. En revanche, pour ce qui est de la création, il n'y a que de très rares mécontentements à pénétrer le monde imaginaire des auteurs. Enki Bilal, Hans Reddy Giger, Moebius, Katsuhiro Otomo et tant d'autres. Car comme pour les musiciens, il n'y a pas de plus court chemin entre l'imaginaire de l'auteur, sa main et son instrument pour faire exister le monde. Le cinéma d'animation existe aujourd'hui comme une création à part entière, connaît sa propre catégorie dans les festivals de cinéma les plus renommés, grandit, s'émancipe dans les nouveaux territoires où techniques et technologies se mêlent au cinéma en inventant de nouveaux espaces. Créateurs talentueux, algorithmes et superordinateurs façonnent à l'heure actuelle les mondes en réalité virtuelle de demain. Et si ce soir je partais à la conquête de l'Atlantide, ou je voyageais dans le temps, dans le monde de Dune peut-être, peu importe, finalement, où tout cela nous mènera, c'est la pensée qui guide le créateur, le spectateur quant à lui a toujours le choix pour se laisser emporter, ou pas. Moi je me suis laissé emporter comme Yule se fait emporter sur le dos du serpent quand il faut se défendre comme dans le premier court-métrage d'animation de Gabriel Harel, qui est notre invité ce soir. Bonsoir Gabriel.
Salut.
Champagne et tout.
Attends, tu vas trop vite. Donc Gabriel, tu vis à Marseille, tu es réalisateur de cinéma d'animation, tu as réalisé un premier court-métrage, Yule et le Serpent en 2015, qui est produit chez Kazakh Productions, et La Nuit des Sacs Plastiques en 2018 également chez Kazakh Productions, qui fait l'actualité déjà depuis plusieurs semaines, car il a été nommé à l'Académie des Césars 2020, ouais. Et que tu as donc remporté le prix du meilleur court-métrage d'animation pour ce film.
Le César.
Et bravo
ouais. Le César, c'est beau, merci. Bah, félicitations, merci d'avoir répondu à l'invitation, on est très heureux en tout cas de t'accueillir avec nous ce soir. Donc nous accueillons également ce soir avec nous Guylain Quesnel,
oui.
Qui fait son retour,
oui, oui.
Qui est parmi nous. Guylain,
moi j'ai pas
ça
reçu de César, écoute, pas encore en tout cas, mais toujours ravi d'être avec toi.
Ouais, ouais.
Ouais.
Bah, on est très content que tu sois parmi nous aussi ce soir, et aussi Michael Sixi qu'on présente plus.
Bah Michael. Oui, parce que moi aussi c'est César, hein. Moi je suis à la boutique César du panier, j'ai du César toute la journée, j'ai un petit garçon qui s'appelle César aussi, voilà.
Bah, donc, toi,
j'ai
eu un César avant toi. Moult récompense pour Michael.
ouais.
Bah c'est parfait ça. D'accord, eh bien écoutez, on est ravis de vous accueillir ce soir. Donc l'émission ce soir, eh bien, nous allons parler justement du travail de Gabriel, notre invité, de tes films bien sûr, mais aussi de ton processus de création, de tes inspirations, de l'importance du son et de la musique dans tes films, de ton approche du montage, de la mise en image des films.
Ça fait beaucoup, hein. Ouais. C'est qu'on va avoir le temps de parler de tout ça.
Il fait pas tout seul quand même.
Tout un programme.
Non, c'est des grandes équipes.
Une équipe. Ouais.
Des bonnes équipes en tout cas. Ouais. Bah, ça me fait en tout cas très plaisir de venir parler sur Radio Galère. Voilà, je ne sais pas par quoi commencer maintenant. Question.
Peut-être par Yule et le Serpent, déjà. Ce serait un bon départ pour commencer à discuter un peu
alors,
de ton travail.
Justement, Yule et le Serpent, c'est un premier film, c'est mon premier film produit. Bon, j'avais fait des petits films amateurs avant ça, mais premier film produit. Et il est inspiré justement de ma jeunesse. Dans les Hautes-Alpes, du rapport que j'avais avec mes amis d'enfance. Et voilà, des
T'avais des chouettes copains, dis donc.
Ouais, c'est ça.
Quand on voit le film, on se dit, ouais, il avait des copains.
C'est voilà, c'est des gamins qui font du petit trafic et voilà. C'est inspiré de tout ça, mais aussi des cauchemars que j'ai commencé à faire quand je me suis éloigné de ces amis, quand je suis allé faire des études d'art dans le Nord. Et j'ai commencé à faire des cauchemars récurrents où ils se mettaient en scène et puis il y avait de la drogue, etc. Donc ils avaient des chiens, des pitbulls, c'était un peu white trash.
Ouais, ouais.
Et voilà, dans ces cauchemars, ben, y avait tout ça qui se mélangeait, des poursuites, de la drogue, des extasies, des tronches qui explosent et puis des bestioles qui poursuivent. Voilà, donc inspiré de tout ça, voilà, j'ai commencé à écrire une histoire avec des gamins qui sont confrontés à un sale type quoi, qui fait du trafic avec des gamins un type plus âgé. Voilà.
Mais ça sert d'exutoire, ça, une fois qu'on fait le dessin animé, on n'a plus de cauchemar.
Ouais, non, ça peut, en tout cas, on passe quelque chose. Ouais, ça fait comme une petite analyse.
Ouais, c'est une forme de catharsis. Création, ça permet toujours de.
Ouais, bien sûr, on sort des choses profondes, quoi. Surtout là, c'était un premier film et effectivement, j'ai mis mes tripes. Hein. Ouais. Je suis allé chercher loin, mais sans trop savoir au début. Hein. Je savais pas vraiment de quoi ça parlait, en fait, quand j'ai commencé à faire les premiers dessins, etc. J'étais inspiré de plusieurs choses, de nouvelles que j'avais lues, des trucs comme ça.
Il y avait lesquelles, par exemple ?
Ce serpent qui, dans une publication de Paul Auster sur des histoires vraies d'Américains, racontées et écrites par des auditeurs d'une émission de radio. Qui lui envoyaient des histoires qu'ils avaient vécues, plutôt insolites. Et là, il y avait une histoire avec un serpent. Cette histoire, cette nouvelle, s'appelait Andy le serpent.
D'accord.
Et c'est une nouvelle en fait qui m'a toujours, que j'avais lue, qui me hantait quoi, qui restait beaucoup. Et je pense que c'était lié au bad trip que j'avais pu faire aussi dans les rave parties, tout ça, quand j'étais adolescent quoi.
À cavaler derrière les serpents.
Voilà. Ouais. Donc, du coup, pourquoi Yule alors ça a un rapport avec Yul Brynner ou pas du tout
enfin, c'est marrant parce qu'en fait non j'ai réalisé ça après en fait quand même qui joue le serpent justement.
Ouais.
Non, j'ai réalisé ça après. C'était en fait au départ, j'avais écrit une histoire avec des gamins qui sont exclus. Enfin, ce gamin qui est exclu d'un groupe, etc. Ouais. Et puis, pour moi, c'était un gitan, c'était un rom. Et comme justement dans mon village, il y avait tous les ans, tous les étés, il y avait un groupe de gitans qui venaient, qui faisaient des fêtes foraines, etc. Et du coup, on était tous les ans, tous les étés, on était avec eux, donc conflit, pas conflit, une sorte d'amitié bizarre et tout. Mais donc, y avait beaucoup de ça. Et à ce moment-là, on parlait beaucoup des Roms, en fait, aussi, quand j'ai écrit ça. Et du coup, je l'avais nommé avec un prénom de l'Est.
Oui, qui évoque un peu les Balkans.
Et puis finalement, c'est devenu beaucoup plus personnel, en fait, avec beaucoup plus inspiré de mes potes d'enfance, etc. Donc voilà. Donc c'est avec toute cette inspiration des souvenirs et tout ça réel, mélangé à ces cauchemars que j'ai fait, j'ai écrit ce scénario et fait ce storyboard entre des personnages très naturels, très concrets, très réalistes en fait, et qui vont rentrer dans un monde fantastique quoi, ou qui vont
d'ailleurs la prise de son des voix elle est assez spéciale je trouve c'est assez rare sur une animation d'avoir ouais. Je l'avais noté d'ailleurs dans mon dans ma petite chronique qu'il y avait un petit problème, enfin pas un petit problème, mais que ça m'avait choqué d'entrer le rapport des voix. Ouais.
Écoute, ça me fait plaisir. Je pense qu'on peut
écouter un extrait, tout à fait.
Qui montre un peu justement ça.
On va écouter un premier extrait donc de Yule et le serpent. On se retrouve après.
Salut Mike! Oh, on a Chourav à sac à main.
On l'a volé à une bourgeoise.
Oh, dis-le, c'est quoi ce mongol là?
Bah, c'est mon frère, t'inquiète.
Vas-y, viens, Dino. Dino, j'ai dit.
Il y a un téléphone.
Bah, si tu veux bosser pour moi, c'est sans ton petit frère. Hein.
J'ai besoin de lui.
Ah non, moi je te donne zéro sinon pour ton téléphone, toute ta merde là.
Tiens-moi ça.
Et bois pas, hein.
Mais non, je rigole, bois.
Vous l'avez traîné, la vieille, ou quoi?
Je sais pas, j'ai tapé dedans et lui, il a ramassé ça. Bouffez le bitume.
Ah, ah,
de Yule et le Serpent.
On a écouté le premier extrait de Yule et le Serpent.
Ouais, tout à fait. Donc c'est un extrait, comme vous avez pu l'entendre, en fait, où c'est donc Dino et Yule qui arrivent en scooter à la rencontre de Mike et lui apportent donc ce sac volé.
Qu'ils ont braqué à une vieille dame un peu bourgeoise.
Voilà. Qu'ils ont volé un peu plus tôt.
Ils ont traîné aussi.
Ils ont traîné apparemment, et on n'entend pas trop, mais on l'entend un peu dans le hors-champ qui dit ouais, je sais plus.
Et donc ce qui est intéressant justement là, c'est ben, comme tu le disais Michael tout à l'heure, c'est qu'il y a un travail sur le son qui est important. Il y a justement cette bourrasque qui arrive, qui aveugle en fait Yule et qui va en fait l'entraîner sur justement...
Dans son imaginaire, et, ouais, dans un truc beaucoup plus, une mise en scène et puis des images beaucoup plus oniriques tout d'un coup... un serpent surnaturel. Voilà. Et pour du coup répondre à ta question et ta remarque de tout à l'heure, c'est effectivement on a fait en fait un tournage en décor naturel. En fait d'abord sur dans les films d'animation en général, moi aussi je trouve que souvent les voix en court-métrage peuvent vraiment en fait casser toute
une
dynamique et un naturalisme où tout d'un coup en fait
souvent elles ne correspondent pas voilà. Au mouvement
parce que c'est enregistré en studio.
Donc t'as un mec qui court comme ça puis il fait oui alors je te disais voilà. Que bah non voilà, il faut que...
tout d'un coup c'est tout alors, mou vois, ça ça casse complètement l'image etc. Donc moi vraiment j'avais très peur de ça, je me disais non si on a des voix toutes molles comme ça avec ces bagarres et ces petits jeunes là qui...
Ou alors il faut le redoubler quoi, parce que
voilà,
sinon
on peut pas, ça va, c'est ouais. Pas, même pas la peine, le film il est raté d'entrée de jeu quoi. Donc premier défi pour moi c'était vraiment de trouver déjà des comédiens, ou pas des comédiens mais des gamins, parce que là donc c'est des gamins, ils ont 13 et 16 ans dans le film. Et puis l'autre Mike qui est plus âgé, qui doit avoir la vingtaine, c'était de trouver des comédiens qui soient vraiment crédibles lorsqu'ils s'énervent, lorsqu'ils ont vraiment quand ils se bagarrent etc, qui se crient dessus, que pour n'importe quel dialogue, voilà, qu'ils soient vraiment crédibles. Donc on a fait un long casting et on a trouvé des super comédiens.
Ah, en tout cas ils sont une super justesse quoi, ils ont vraiment des intonations, enfin moi je suis comédien donc je peux en parler, je veux dire ils ont des intonations d'une justesse incroyable quoi. C'est le gros reproche que je fais souvent au cinéma français d'animation longs courts métrages, c'est les voix qui sont toutes molles, qui collent pas, qui sont... ou genre un personnage vieux qui a une voix de gamin ou un personnage gamin qui a une voix de vieux, enfin
qui sont très composés.
Vraiment, t'as su aller à l'essentialité des personnages et de leur énergie.
C'est peut-être aussi par rapport à la direction.
Et la direction, voilà, la direction d'acteur.
En fait, ce que je souhaitais.
Et les comédiens, évidemment, que tu as dirigé. En gros, t'as su trouver vraiment.
Les trois comédiens, ils étaient exceptionnels. Didier Michon, il avait été repéré pour un long métrage où il jouait le premier rôle. Il a été récompensé à Marrakech, au festival de Marrakech. Donc une fois qu'on avait fini le tournage de Yule et Serpent, tout ça, Didier Michon, il joue donc Yule. Donc il avait 13 ans ou 14 ans au moment du tournage. Et juste après le tournage de Yule et Serpent, il est allé à un festival à Marrakech. Et c'est Martin Scorsese qui lui a remis le prix d'interprétation quand même.
On nage dans la classe quand même.
Ouais, mais après, ça lui met la barre haute
Didier
pour
Michon.
Le début après.
C'est
Foresti qui va te filer un César, t'étais déçu.
Ouais, c'était Didier Michon, hein, c'était pas moi. Hein. Lui, effectivement, il avait ce truc très naturel et la caméra ou le micro, etc., ne le gênait pas du tout pour être au plus naturel et quand il doit s'énerver et qui pendant le casting je lui faisais faire des trucs où il devait me tuer avec une pierre quoi, et j'en enregistrais, j'écoutais ça, je me disais mais il y a aucun filtre de jeu quoi, c'est on y croit vraiment,
il est dans ce qu'on appelle, il joue juste, voilà.
Et les deux autres c'est pareil, donc Théo Bertrand qui après ça a joué dans Plus belle la vie, mais sinon avant ça il avait joué dans les La guerre des boutons avec Chabat.
La
version de Chabat. Donc celui qui joue Mike, c'est David Ribeiro, qui est aussi un excellent comédien en fait, qu'on n'a pas beaucoup vu en fait au cinéma, mais qui est vraiment très 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 bon. Et lui, il est pas marseillais. Non. Lui, je pense qu'il a des origines, il a des origines portugaises, mais je pense qu'il a des origines un peu gitanes. Et sa façon de parler, c'est un petit zozotement de gitan. Et puis. Il a clairement grandi dans les quartiers, et c'est un boxeur professionnel et il a entraîné des gamins et tout la boxe. Du coup, il avait aussi ce truc-là sur le tournage, c'est qu'en fait... Donc voilà, une fois que j'avais trouvé ces comédiens, je les ai emmenés au-dessus de mon village et on a fait 2 jours de tournage avec une petite équipe de son et un caméraman. Et voilà, pendant deux jours, on a joué toutes les parties, les scènes dialoguées. Et on les a vraiment fait, quoi, du coup, dans l'action, etc. Ce qui a permis d'avoir vraiment ce naturalisme et ce dynamisme dans les scènes avec les comédiens, quoi, avec les acteurs, avec les personnages.
D'accord, bah c'est, en tout cas, ouais, c'est un très bon travail déjà sur l'interprétation des personnages par ces trois comédiens, justement, en fait, aussi sur l'aspect un peu plus de la conception du film, sur l'arrivée des conflits à ce moment-là dans l'histoire, comment ça se passe, parce qu'en fait, il y a Yul qui disparaît, qui s'éloigne, Mike ouais, qui lui demande de revenir.
C'est ça qui est exclu, en fait, le petit... en fait, donc, c'est une histoire de frères, hein, c'est Yul et Dino qui sont frères, et Dino qui veut faire un peu du trafic et tout ça, parce que lui, il est influencé par Mike, qui est plus grand, qui est plus âgé, donc voilà, il est juste influencé par le plus grand, quoi. Hein. Voilà, quand t'as 16 ans, tu as envie de faire la même chose que ceux qui ont 20 ans. Et ouais, Yul, il a envie de faire
ouais,
la même chose.
Ouais, puis t'as la triple influence, quoi. T'as le petit exactement. Qui est influencé par son frère, qui est influencé lui-même par
exactement.
Le caïd, quoi. Y a tout un...
C'est exactement comme ça que ça se passait dans t'as mon village, en fait. Voilà, hein. Du coup, il y avait des fois, on traînait, on se retrouvait dans des endroits où il y avait vraiment du truc, de la drogue, etc., du trafic, enfin des trucs. Et finalement, il y avait aussi des gamins de 13 ans, quoi, là-dedans, parce qu'ils étaient venus avec le grand frère, qui était venu. Hein, et. Tout ça s'influence et du coup Yul il est exclu parce qu'en fait lui il a pas les codes de celui qui se comporte comme une petite racaille, quoi,
ouais,
en fait,
du voilà. Caïd, là, du
ouais, c'est ça. Et Dino, en fait, c'est juste un truc, quelqu'un qui refait comme ce qu'il a vu dans les films.
Oui, il est dans le mimétisme des codes.
Il a vu,
Dino, tu le sens dans le film.
Il a plus l'impression de voir se trimballer le petit frère que de...
Pour moi, c'était comme ça dans le village, dans les Hautes-Alpes. Et c'était vraiment comme ça que ça se passait, en fait. On avait juste les codes des quartiers nord, en fait, qui, de Marseille, quoi. Qui, on s'habillait pareil, exactement, et tout ça. Et refaisait pareil, quoi.
Il a changé quand même.
Il a changé
depuis.
Il a changé depuis.
Je pensais qu'il allait venir en survêtement de l'OM et tout.
Moi, dans l'histoire, je suis plutôt Yul.
C'est lui
qui est un peu bizarre. Quoi.
Je cours après les serpents.
C'est ça. Et donc, voilà, ce qui se passe, c'est que le petit, du coup, Yul, il est exclu. Et puis il y a le vent qui l'empêche aussi d'approcher et de voir ce qu'il fait son grand frère, etc.
Et puis c'est un enfant, lui, il joue, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il quitte un peu ce monde, on va dire, d'adulte, de
ouais,
ce monde
justement,
un peu dur,
ultra
un peu
codé, etc. Ouais. Ouais. Et du coup, voilà, il aperçoit ce serpent étrange aux couleurs vives et acides. Mmh. Et voilà, ils se mettent à lui courir après.
Et le vent, déjà, il a un peu une dimension fantastique, quoi. Tu sens un peu le côté destin, un peu
ouais, exactement,
l'intervention
c'est...
du Fatum, enfin des
ouais,
trucs comme ça, quoi.
C'est ça. En fait, il y a le vent qui l'emporte, en fait, qui l'empêche qui lui met de la poussière
ouais,
dans les yeux.
Il saigne des yeux.
Donc
des yeux
voilà, et rouges, donc il est obligé de se protéger comme ça et il s'enferme dans une sorte de bulle. C'est un peu ce que le vent nous fait des fois, le Mistral. Il souffle tellement qu'en fait, il nous bouche les oreilles, on n'entend plus rien. Et donc, en fait, on rentre dans notre bulle comme ça, dans
un
acte imaginaire.
Alterné, ouais,
ouais. Et donc là, voilà, il rentre dans son intérieur et voilà, quoi. Et puis les autres, par contre, le ramènent à la réalité. Mais voilà, c'est vrai que c'est ce vent, tout le son du vent, comme ça, c'est la musique aussi, d'ailleurs.
Mmh,
la musique
tout à fait, on
rentre
en a parlé,
par le vent, comme ça, dans les airs, et dans ce son du vent, et va emporter le personnage et le spectateur. C'était, en tout cas, c'était mon objectif, ça, qu'il emporte le spectateur aussi dans un truc, tout d'un coup, qui le fasse décoller de la réalité, pour être ramené brutalement par ce type-là, Mike, voilà, qui va se foutre de sa gueule à Yul parce qu'il court dans les buissons comme un gogol, quoi.
Ce qui est un peu... ça nous est un peu tous arrivé, hein, d'être un peu moqué par les grands du quartier, quoi.
Ah bah ouais, là je pense que... Enfin, je sais pas son parcours à lui, mais en tout cas,
ça.
Toi et moi, ouais, je pense qu'on était un peu dans les petits geeks assis contre son arbre à lire son livre et à pas jouer au foot avec les méchants grands.
Ça me rappelle mon primaire, t'inquiète, pareil.
Bah, on va écouter un deuxième extrait justement de Yul et le serpent. C'est un deuxième extrait qui traite justement... Alors, juste un instant... qui traite justement du moment où Tyson, Voilà, le chien de Mike va chercher le serpent sur les ordres de son maître. Bien vu, Guilin.
Bien vu.
On passe le deuxième extrait.
Voilà, cherche. C'est ça. Il a trouvé ce putain de serpent. C'est bien mon chien. Eh, hey, dis-nous, tu vas le chercher ou c'est mon chien qui s'en occupe?
Attends, regarde, Mike.
Arrêtez.
C'est bon, Yul, on s'amuse.
C'est ça, Dino. C'est ça, tu le piches dessus, un serpent de merde.
Regarde,
t'es en train de le noyer, Dino.
Il se débat.
Voilà. Ah, je... C'est ça, Dino. Ah, mais... Tu le piches dessus. C'est ça, Dino. C'est ça.
Ah, j'ai fait trop cher.
Elle est chimique, ta piche.
On est de retour sur l'antenne de Radio Galère 88.4 dans l'émission Témoin Oculaire en compagnie justement de Gabriel Harel pour ses films Yul et le Serpent et La Nuit des Sacs Plastiques. Donc là on a passé un deuxième extrait justement donc avec Mike qui envoie Tyson chercher le serpent. On arrive un peu plus dans l'univers de fantastique en fait de la partie du film. On quitte un peu le réalisme pour arriver dans quelque chose qui est différent. On arrive dans un cinéma un peu plus de genre, j'ai envie de dire. Comment est-ce que cette partie-là justement sur la création du dessin, sur l'approche que toi t'as pu avoir, comment est-ce que tu l'as envisagé?
Beaucoup de drogue.
On y revient toujours.
Je veux dire, café, Coca-Cola.
Oui, c'est ça, voilà.
Ah, on n'a pas envie de dire de marque, pardon. Tu ne chutes pas de marque, café.
Non, ben bah, oui, c'est une partie. Yul, il tombe dans un ravin, en fait, et puis là, il se retrouve face à un cobra, quoi.
Oui, carrément un cobra. On change la dimension, parce qu'au début, c'est quoi, une vipère?
Il y a une couleuvre.
Normalement, les couleuvres, ça ne mord pas. Donc ça,
non, c'est plutôt sympa, quoi. Une
couleuvre,
non,
c'est pour ça qu'il court après.
Il court après, il joue avec, il a des couleurs sympas et tout. Et finalement, il est poursuivi par le pitbull de Mike. Et il se retrouve au fond de ce ravin là.
Bah là en plus on est vraiment dans le pur réalisme à ce moment-là, on est vraiment genre dans Menace to Society ou un truc comme ça quoi, le côté genre je t'envoie mon chien dessus quoi.
Oui. Et finalement au fond du ravin là c'est sous terre, il se retrouve face à un serpent immense qui a une tête de cobra et là poursuivi par le chien qui débarque, le serpent va attaquer le chien et le tuer. Donc Yul va se retrouver seul avec ce serpent immense et prédateur immense quoi. Et
qui devient du coup quasiment un anaconda en fait à la deuxième partie parce qu'il s'enroule,
avec des sons de serpent à sonnette, tout ce que tu veux là, c'est un monstre. Hein.
Un monstre mythologique.
Effectivement, c'est le genre.
Le Kraken.
Le cinéma de genre, le fantastique. C'est des cauchemars, c'est des restes de bad trip. C'est aussi toute la mythologie du serpent, mais c'est immense. Oui. Parce que toute
le
civilisation.
Tout ça, tout à fait.
On rappelle que la drogue, c'est mal. Hein.
Qu'on trouve sur le cas du CD.
Mais
il faut partager.
Mais il faut partager. C'est quand même grâce à la drogue. Hein.
On trouve le serpent sur les cas du CD des pharmaciens. Hein, donc la drogue, tout ça, on n'est pas très éloigné.
Exactement. Voilà. Non, mais c'est vrai que le serpent, en fait, dans toute mythologie, il apparaît, il est très important. Il a des significations multiples. Moi c'est tout simplement l'acide. Après bien sûr ça va chercher dans nos souvenirs intérieurs, etc. J'ai pas fait d'analyse avant ça, donc j'en sais rien en fait.
On te ferait une prise de sang en partant.
Yul il va être confronté à sa peur du serpent. Moi les serpents c'est un animal qui m'a toujours fait, vraiment je suis pas à l'aise en face d'un serpent quoi. Même un petit dans un aquarium et à la fois fasciné, il y a quelque chose de comme une mythologie quoi, c'est comme une sorte de dieu.
On a commencé spermatozoïde, les gars, quand même.
Ça vient d'un autre monde, d'une autre époque quoi, t'as l'impression qu'il
y a un côté transfiguration du réel dans ces trucs, dans ces bestioles là.
Donc voilà, sans vraiment maîtriser du tout ce que ça peut évoquer, je pense que ça peut évoquer cette partie du serpent. Moi les spectateurs m'ont raconté des tas de choses personnelles en fait. Alors là, chacun son, voilà, chacun son interprétation. Effectivement, moi, dans l'animation, dans le dessin, effectivement, là, c'est la partie la plus libre où vraiment, je me suis, j'ai passé des nuits. Alors là, c'était plutôt, j'aimais travailler la nuit quand même, en buvant un petit coup, etc. Et puis, je dessinais beaucoup et je me laissais aller, effectivement, en écoutant beaucoup de musique. La musique plutôt acide. Mmh. Et voilà,
comme quoi,
ça Afex entraîne.
Twin, des choses comme ça.
Ouais, Afex Twin, exactement.
Ah, bah oui, tu m'aides pas.
Ces parties Analord que j'adore, qui sont vraiment avec des machines analogiques, etc., qui sont tous un peu acides, etc. Ouais, ça a emporté le dessin et tout ça. Et puis, effectivement, ça, encore une fois, ça allait chercher des souvenirs voilà, que j'avais avec ces potes de jeunesse. Quoi.
T'as une nostalgie, j'ai l'impression, de cette époque-là.
Bien
quand
sûr,
même.
On a vécu des choses très fortes, mais quand on est adolescent, comme ça, on vit des choses fortes. Et nous, on jouait avec le feu, en plus. Donc, effectivement, voilà, à 18 ans, voilà, on traversait la France, on pourrait se mettre la tête. Quoi. Et puis, voilà, t'es face à des flics, face à des punks, face à des...
À des serpents.
des pitbulls ou des serpents, quoi. Mais, voilà.
Après, ce qui est intéressant aussi avec le serpent, c'est qu'il peut aussi représenter soit une figure paternelle, soit la figure que Yul aimerait que son frère soit, c'est-à-dire quelque chose de protecteur et tout, parce que quand la racaille elle lui fout la tête dans la pisse, là, ben, le frère, il bouge pas, quoi. Il se révolte pas, alors, il le défend pas.
Ouais,
il,
là, ça, bah, alors là, ça va chercher du conflit. Ouais,
je pense que c'est surtout qu'il peut pas, quoi.
Oui, bah oui, mais justement, du coup, Yul, il va chercher dans le serpent ce que son frère n'a pas.
Il a un refus d'aider son frère,
ouais.
Quoi.
Et
il est pas à forme de protectorat, enfin de.
Ouais, bon, bah là, il y a vraiment un conflit, quelque chose que j'avais à dire hein, sur la fraternité, oui. Et la fraternité, la solidarité, voilà.
Oui, peut s'avérer.
Qu'est-ce qu'un vrai pote, quoi. Qu'est-ce qu'un vrai pote, c'est celui qui joue encore avec les codes de l'autre, qui fait du trafic, machin, ou c'est celui qui va te défendre et tout ça.
Qui va risquer sa vie pour toi quelque part.
Donc.
Ben on va écouter un dernier extrait de Yul et le serpent. C'est un extrait justement où Yul tombe dans le ravin et se fait attaquer par des monstres. Donc c'est un extrait qui est un peu plus construit au niveau du son et qui va nous permettre peut-être d'avoir une illustration de ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là aussi.
Bonne chance.
Troisième extrait. Donc on est de retour sur l'antenne de Radio Galère, toujours dans le témoin oculaire avec Gabriel Garel, Guilin et Michael. Qui est là, où il y a beaucoup de...
Cette perturbe
ça devient
trop.
Un peu compliqué.
Ah, c'est dur. Hein.
Ouais.
On va mettre un post-it avec notre nom sur le front.
D'accord. Bah, on fera encore un nouveau jeu. Donc du coup, sur cette troisième partie du film, donc, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. L'intérêt aussi, c'est que justement les auditeurs puissent aussi aller le voir. Alors je sais que justement Yul et le serpent est disponible sur internet. Donc Yul, YUL, si vous voulez aller le trouver, et le serpent, comme ça c'est écrit.
Comme l'acteur
Yul Brynner. Ouais.
Et donc vous pouvez le retrouver sur internet. Vous tapez ça dans Google. En tout cas, moi, je vous invite à aller voir le film. Peut-être un point qu'on n'a pas abordé justement sur celui-là, on a parlé de beaucoup de choses sur le son, sur la technique, sur l'aspect vraiment fantastique. Mais en termes du tournage, et toi, comment est-ce que tu as travaillé sur le dessin, comment tu as retravaillé les images derrière?
Ouais, comment ça se passe en fait de redessiner par-dessus ce que tu as filmé apparemment, c'est ça?
On parle toujours de Yul et le serpent.
Oui,
d'accord.
Oui, ouais.
En fait, l'idée c'était vraiment de prendre les voix. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de percher les... de prendre le son direct. Et comme en fait les personnages, les acteurs, les comédiens, ils ressemblaient aux personnages que j'avais dessinés, j'ai même un peu retransformé mes personnages dessinés pour qu'ils ressemblent un peu plus aux acteurs, ouais. Parce qu'en fait ils étaient géniaux ces acteurs. Du coup, bon, Yul en fait quand même un peu moins, parce que quand même Yul dans le film, il a vraiment un très grand nez.
Oui, il a un sacré nez pointu. Ouais,
des, voilà, et puis des grandes oreilles.
Ça rappelle beaucoup Sfar. Ouais,
c'est
Shadow Rabbin, rappelle, tout ça. La fin
ça rappelle Sfar parce qu'il a un peu un nez un comme nez pointu, ça, machin. Ouais, ouais. Mais c'est plutôt inspiré de des bandes dessinées de JP.
Ouais.
Qui,
ouais,
tu connais,
ça, ouais, j'ai vu un peu, ouais, de... j'ai regardé.
JP qui est un dessinateur, en fait, illustrateur italien. C'est ça, qui a gagné un prix à Angoulême en 2006. Pour, c'était...
pour Histoire de guerre, peut-être, non ?
C'est ça, ouais, Histoire de guerre, ouais, c'est là qu'il a commencé.
Voilà. Merde, c'était quoi la question, déjà ?
Oui, au niveau de la technique, en fait.
Oui, voilà.
Est-ce que c'est comme dans The Scanner Darkly ? Est-ce que tu as filmé et que tu as fait un espèce d'effet de remappage
Voilà, nous, c'était vraiment le son qui nous intéressait. Puis finalement, on s'est dit, ah ben quand même, en fait, on va dans les décors naturels avec des comédiens qui ressemblent aux personnages. On va filmer, quoi. On va prendre vachement de on va prendre le maximum de matière. Et donc, on est allé avec mon storyboard et puis un caméraman et on a vu, bon, ce serait bien d'essayer de filmer à peu près comme le storyboard. Mais on n'a pas tout joué, on a joué seulement les parties dialoguées.
D'accord.
Donc, voilà, on a pris ce qu'on pouvait, tout ça avec la caméra. Et après, ben, on avait un film en prise de vue réelle, mais qu'à moitié, puisqu'on avait filmé que les parties dialoguées. Et pour le reste, là, j'ai complété avec du dessin. Mais toutes ces parties filmées, elles n'étaient pas sous le bon angle de vue par rapport à ce que je voulais dans la mise en scène, etc.
Donc, la bonne lumière.
Ouais, non. Bon. Et donc, de toute façon, il a fallu transformer. Oui. Mais pour certains plans, on avait quand même quelque chose qui se rapprochait entre la prise de vue réelle et le dessin.
Donc il y a des plans que tu as gardés tels quels, mais presque que tu as redessinés par-dessus pour les rendre.
Et
plus...
alors ça m'a vraiment donné envie, parce que là je me suis dit, mais en fait, voilà, en fait, on a une matière qui est vraiment puissante, en fait, parce que les comédiens sont vraiment bons. Le jeu est excellent, il y a une vraie mise en scène, puisque c'est storyboardé, c'est filmé comme ça, donc on a aussi une sorte d'impulsion comme ça, une sorte de choses qu'on prend sur le vif, quoi. Donc, ouais. Voilà. Et des fois même un peu décadré presque, etc. Ce qu'on n'a pas tendance à faire en dessin, où on compose beaucoup, on centre bien, etc. Là, c'est plus fait sur le vif, quoi. Donc,
oui, ça se sent beaucoup que c'est sur le vif.
C'est une méthode que tu avais déjà utilisée avant, ou c'est quelque chose que tu as mis au point pour...
Moi, j'ai toujours été entre photo, dessin, tout ça. J'ai toujours fait un peu des deux, quoi. Et voilà. Du coup, là, vraiment, ça m'a donné envie. Une fois, on s'est rendu compte que quand même, cette matière filmée nous était vraiment bénéfique. On pouvait aller chercher. Donc, on n'a pas redessiné par-dessus l'image filmée. On avait l'image filmée d'un côté et puis on s'est inspiré d'un geste, d'une attitude. Voilà, c'est tout.
Ouais, ouais.
Et on redessinait comme ça. Mais par contre, pour un deuxième projet, je me suis dit, là, je vais poursuivre là-dedans. Je vais essayer d'approfondir ça et vraiment de filmer tout mon storyboard pour pouvoir après animer plus facilement, etc. Voilà.
Bon, on va en parler tout de suite après. Alors, il y avait quelque chose qu'on n'a pas abordé comme sujet, c'est aussi la musique de Freddy sur Yul et le Serpent. Donc Freddy, qui est un ami à toi,
ouais,
qui a fait les musiques.
Ouais, tu c'est ça.
En parler un peu.
C'est un ami de jeunesse que j'ai rencontré au lycée.
Qui prend de l'acide.
Apparemment.
Effectivement, lui m'a fait découvrir vraiment toute, la musique électronique, etc. Moi, j'étais au lycée, il était un peu plus âgé, donc en BTS à ce moment-là, et lui il faisait de la musique comme ça pour lui, quoi, avec des machines, etc. C'est aussi un dessinateur. Donc en fait, on s'est retrouvés, on a été vite très potes. Parce que en fait, on était dans ces milieux-là de techno, etc. Mais finalement, nous, ce qu'on aimait, c'était tout cet aspect un peu punk mais créatif, quoi. Et donc, cet effet de masse et de trucs de trafic, etc. C'était pas notre truc du tout. Nous, on aimait aller chercher, voilà, dans les machines, dessiner, etc. Passer des nuits
dans la création,
à tout
quoi.
Ça. Et donc, on s'est retrouvés comme ça. Et donc, on s'est changé beaucoup de choses, de dessins, de musique, etc. Et moi, j'ai toujours adoré, voilà, sa musique qu'il faisait, quoi. Il n'a jamais fait quelque chose de commercial, etc. Il l'a toujours gardé pour lui, ses potes. Mais je le trouve vraiment très, 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 très bon et talentueux. Et là, pour Yul et les Serpents, non seulement c'était la première fois qui commercialisait sa musique du coup, et mais en plus pour l'image, pour voilà, pour le grand écran quoi. Et on a appris tous les deux du coup à composer de la musique pour le cinéma.
Parce que du coup, il a travaillé en amont ou il a travaillé en aval sur le son?
Je l'ai fait travailler vraiment dès le départ en fait. Au départ, on pensait pas qu'il allait vraiment finaliser la musique. Parce que c'était Canal+ avait préacheté le film, etc., le projet. Donc il disait ah non, mais là c'est sérieux, là, on arrête de déconner. Parce qu'on faisait des films avant, hein, tous les deux, mais où il faisait la musique, on faisait des images ensemble et tout ça. Mais là, tout d'un coup, ça devenait vraiment pro,
sérieux.
Quoi, ouais. C'était sérieux et tout ça. Donc il disait non, mais il faut vraiment un vrai compositeur qui va, voilà, qui va tenir la baguette, etc. Tu vois. Mais en fait, c'était tellement bon ce qu'il faisait, la matière sonore, chaque son, chaque truc, des petits extraits qu'il m'envoyait pour m'aider, pour que je puisse placer sur le storyboard, etc. C'était parfait, quoi. C'était, moi, ça m'évoquait vraiment tout ce que j'avais vécu dans la jeunesse, etc. Si j'étais allé voir un compositeur de musique qui savait un peu tout faire, mais qui faisait « Bon, je sais un peu tout faire, je vais prendre ce synthé, on va faire un peu la musique que tu as aimée quand tu étais jeune. » Non.
Il fallait travailler un peu comme ce que tu me disais précédemment, Badalamenti.
Badalamenti, ouais.
Badalamenti.
Angelo voilà. Badalamenti.
J'ai travaillé comme
en fait. Non, mais quand ils ont composé la musique de Twin Peaks, où justement, il y a un truc qui est très intéressant. Il y a une alchimie qui se crée vraiment entre les deux personnes sur les intentions.
En fait, oui, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube où en fait Badalamenti raconte comment il a composé avec David Lynch à côté la musique de Twin Peaks, et je trouve que cette vidéo, juste cet extrait là où il raconte comment ça s'est passé, je trouve que c'est une leçon de composition de musique à l'écran, à l'image quoi. Parce que tout d'un coup en fait il y a une vraie variation dans un truc très ténébreux, tout d'un coup on rencontre la lumière de Laura Palmer là-dedans et tout ça, et c'est magique, c'est nous fait tous des frissons cette musique et tout ça. Et je disais voilà Freddy, en fait voilà, c'est comme ça qu'on va faire. En fait, moi je vais te raconter quelque chose et toi tu vas y mettre des notes, etc. Et en fait chaque son de son synthé, je disais voilà, ça c'est le son du serpent, ça c'est le son de la terre, ça c'est le son du vent, ça c'est le son de Mike, ça c'est le son de Dino, ça c'est le son du truc. Et à chaque fois qu'il m'envoyait décrivais dans ses compositions tel instrument correspond à tel élément, et on va composer avec ça. Donc tel élément à un moment il faut se met en rage, alors tel instrument doit tout d'un coup brouiller, je sais pas, enfin voilà.
Et, justement, je trouve qu'il y a un côté très Carpenter aussi dedans, dans la musique de Yule, peut-être encore plus même dans la musique de La Nuit des Sacs Plastiques, mais dans la musique de Yule, je trouve qu'il y a un côté très très Carpenter, les nappes qu'il peut y avoir dans Fog ou dans le truc la chose. Non, le truc
The Thing. Oui, bah ouais, je sais pas, je pense pas que Freddy soit vraiment plus influencé que ça de Carpenter, mais en tout cas je pense que la musique électronique au cinéma, c'est quand même assez finalement, il n'y en a pas eu tant que ça quoi. Il y a eu des grands films et tout ça, Kubrick, etc.
Il y a Evangelis aussi, mais
voilà, on en a vu
narratif,
on a
vu beaucoup moins
superbe, mais en animation on a très peu.
Et là,
du coup c'est forcément, ça évoque Carpenter quand on entend la musique électronique au cinéma maintenant. Enfin surtout un truc de genre comme ça, je pense. Et effectivement, avec des nappes, puis qu'on est dans la peur, etc.
C'est
l'angoisse. Ouais, effectivement. Ouais,
c'est... Même
on va vous laisser être juge justement de la musique, peut-être que fait Freddy, en tout cas ce qu'il compose. Donc on va écouter un morceau, c'est Durus, qu'a composé Freddy. Donc c'est en exclusivité pour vous, savourez-le, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles. Et donc du coup, on a la possibilité, nous, de pouvoir faire écouter ce morceau-là, en tout cas. Radio Galère 88.4 dans l'émission Témoin Oculaire pour le cinquième numéro. Donc on est toujours avec, en compagnie de Gabriel Harel, ouais, notre invité. Ça va toujours bien, Gabriel ?
Alors on le rapplaudit encore un peu. Il
on le rapplaudit. Félicitations, Gabriel.
Parce que si j'ai bien compris, en fait, tout a été fait à Marseille. Hein.
Tout a été fait, non, pas tout a été fait, mais oui.
Non, il y a une partie qui a été faite dans ton village, c'est ça ?
J'ai fait une non, mais je parle pour la suite. Non,
pour la suite, ça a été fait à Marseille. Pour la suite, c'est
Made in
Marseille.
Made
in Marseille.
Ben, on y va. Mika.
Bon, c'est mon tour. Parce que moi, d'habitude, voyez, on me refile une patate chaude. Mais comme je ne renonce jamais à un challenge, que j'affectionne, qu'on me confie un micro, pour vous partager mon amour du 7e art, j'essaie tant bien que mal d'épauler mon nouveau compagnon de route mensuelle. Mais vous connaissez le truc, hein, nos emplois du temps, on est bénévole, hein, on se prend des réflexions, ça nous contraint parfois à boucler l'émission dans l'urgence, genre faire une spéciale Abel Ferrara au dernier moment, et me rendre compte que j'ai pas vu un seul film d'Abel Ferrara, donc du coup j'ai fait croire à tout le monde que j'avais fait une filmographie sur Lolo Ferrari, et j'ai expliqué pendant près d'une demi-heure comment pas expliquer à une soirée, comment ne pas passer pour un imbécile quand on n'a pas vu un film mais qu'on a plein de choses à dire dessus. Voilà, c'est un petit peu ce que fait un peu toutes les critiques de cinéma,
oui,
en général.
Peu, voilà,
je me suis un peu inspiré.
Ouais.
J'ai utilisé les bonnes vieilles méthodes. Alors ce soir, j'ai potassé. Voilà. D'abord parce que passons notre invité, parce qu'en général, j'aime pas lire un petit peu à l'avance. J'aime bien découvrir les gens quand j'arrive, pas faire semblant. Oui, oui, je connaissais. Non, c'était pas vrai. Donc je connaissais pas. J'ai pas voulu googler. Et je savais que Tom, de toute façon, il allait nous brosser ta bio au début de l'émission. Grâce au format du court-métrage, je me suis revu plusieurs fois le court. Du coup, j'ai eu le temps. Donc, j'ai regardé 4 fois quand même.
Ah ouais.
Le deuxième. Parce que le premier, bah, je reconnais, c'était pas mon univers. Moi, j'ai pas grandi au milieu de la drogue. La musique électronique, elle me fait signer du nez. J'ai pas réussi à m'identifier. J'avais pas tout compris. J'étais perturbé par ce qu'on a parlé tout à l'heure, là, les voix, le son. Le fait d'avoir pris le vent et d'avoir bien pris le vent, d'ailleurs, le son était bien étalonné. Du coup, je l'ai écouté sur mon ordinateur avec un son pourri et ça m'a quand même sauté aux oreilles. Donc voilà, donc j'avais pas accroché, et puis je suis pas quelqu'un de malhonnête, j'allais pas arriver en disant ah super, t'as gagné le César, j'ai tout aimé. Non, c'était pas vrai, j'avais pas accroché Yuli le Serpent. Alors j'ai eu peur quand j'ai envoyé La Nuit des Sacs Plastiques. Et non, la magie à l'opère, mon cher. C'était magique. D'abord, tu as changé de méthode. T'as pas changé de méthode. On retrouve le trait un petit peu de ce qu'il y a dans Yule. Il y a cette animation que j'imaginais à une image seconde, là, parce que je faisais des flip-flops quand j'étais petit. Mais ça marche de suite. Surtout pour un Marseillais qui connaît le coin, quoi. Enfin, je pense qu'on a tous des souvenirs perso à la Baie des Singes. Enfin, là, ça s'appelle pas la Baie des Singes, c'est le resto qui s'appelle la Baie des Singes,
ça,
c'est le Cap Croisette.
Ça dépend pour qui.
On y a tous des souvenirs. Chacun à notre sauce, des moments de notre vie. Enfin, moi, j'ai passé beaucoup de temps au Good. Donc,
Tu l'appelles la Maronnaise, parce que c'est la boîte de nuit aussi.
Sauce, reste.
J'ai fait la dernière soirée. J'ai fait la dernière soirée de fermeture de la Maro.
Avant la fusillade.
C'était terminé. Voilà. Le Marseillais, moi, il a plongé dans le conte. C'était un poème. Donc, comme je te disais, d'abord parce qu'on connaît le décor et qu'on y a des souvenirs. Et que tu as tout mis au service de la narration. Que ce soit la musique, l'animation, les références. Ouais, ça marche. C'est la seule chose que j'ai trouvé ultra déroutant, et c'est ma question primordiale d'ailleurs qui m'a sauté aux yeux, c'est pourquoi les sacs plastiques sont en couleur ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que en couleur, et pourquoi la seule couleur que tu vois dans notre monde, finalement, c'était le mal qui allait ressurgir de tout ça ? Alors nous, on est attaché à la pollution à Marseille, je ne la vois pas en couleur, la pollution. Ça m'a choqué. Me dire, mais la poésie, il me la renvoie de ce qui est en train de nous détruire. J'ai élaboré plein de choses là-dessus, hein, de théorie, de ce que ça pouvait être, alors, mais je voulais quand même avoir ton avis. Je voulais avoir ton avis avant. Voilà.
Ah bah oui, alors pourquoi en couleur ? Justement, c'est un peu toute la vision de la Nuit des Sacs Plastiques.
Attends, je mets juste un bémol, parce que j'avais mis une phrase pour tout ça, parce que tu n'es pas obligé de vraiment répondre, parce que j'avais quand même fini en marquant. Voilà, je pourrais te poser 1000 questions techniques, mais en fait, on ne demande pas aux magiciens de révéler leur tour, donc tu n'es pas tout obligé de dévoiler. Hein.
Ouais, c'est effectivement, c'est un peu compliqué, parce que d'abord, je pense qu'il vaut mieux voir le film, et ensuite, moi, je ne voulais pas faire c'était pas l'idée de faire un spot sur la pollution, un spot d'information sur la pollution. C'est une vision. Moi, je voyais les sacs plastiques voler dans les airs. Et en fait, il y a quelque chose d'un peu magique comme ça.
J'avoue, ouais.
Et imaginer les sacs plastiques être une nouvelle espèce vivante qui a bon, qui attaque, ok. Mais
c'est un nouveau continent aujourd'hui.
Tout d'un coup, on se dit, bon,
mais il y a
en fait,
genre un peu un mal et une
c'est
semaine.
C'est une force
non, ça, c'est
supérieure, quoi. Il y a quelque chose de vraiment supérieur à aux êtres humains, aux autres animaux. Déjà, ouais. En fait, ils vont vivre très 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 longtemps.
Oui,
ils
plus.
Peuvent nager, ils peuvent voler, voilà. Ils peuvent nous étouffer comme ça. Il y a quelque chose comme une intelligence peut-être supérieure.
Oui, et, un peu mystique. Ouais,
ouais c'est bah, ça. Fin, hein, et voilà. Et puis effectivement, ben voilà. Après, on faut raconter la fin du film, mais
non, ça sans raconter la fin.
Sans raconter la fin,
je trouve que c'est un peu un mâle et une femelle en tout cas au niveau des couleurs.
Quelque chose,
est-ce
quelque chose qui
de dit ordre là.
Bon, oui, les sacs plastiques, c'est peut-être la pollution, mais il y a quelque chose de magnifique aussi là-dedans. C'est-à-dire que si on enlève tout d'un coup notre vision d'humain là-dedans, où on se dit, bon, c'est pas la fin du monde, c'est peut-être la fin de l'humanité, mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont... Enfin, voilà, c'est finalement...
J'avais l'impression que tu nous proposais une vision du monde très neutre, très noir et blanc, finalement devenu très monotone, et que finalement, le seul moment où on avait de la couleur, c'était dans l'objet à usage unique.
Alors, c'est pas l'objet à usage unique. Pour moi, c'est le sac plastique. Effectivement, le sac plastique, pour moi, oui, il symbolise la pollution plastique parce que...
Parce qu'on se l'utilise une fois et qu'on jette.
C'est la pire des choses en plastique parce qu'effectivement, on l'utilise quelques secondes et on le jette.
C'est un bonheur éphémère, voilà.
Tu les as déjà utilisés en ouverture de Yul et le Serpent. Il y a 2-3 sacs plastiques qui volent déjà.
Oui, on les voit déjà, j'allais en parler.
C'est ça.
Donc il y a quelque chose.
Il y a une thématique sur le sac plastique.
Mon crayon le savait, quoi.
Une figure qui t'impressionne.
Oui, effectivement. Mais en fait, c'est...
Les pochons d'acide.
Les pochons. Les méduses. C'est vrai que j'ai fait un raccord avec le sac plastique et la méduse, comme c'est des espèces vivantes qui viennent de...
Et ça s'y prête très bien d'ailleurs.
Oui, enfin, ça fait vraiment
à la fois quand tu les fais voler, quand il y en a un qui attaque une mouette par exemple.
Et nager.
Il y a ceux qui rentrent en symbiose comme ça pour reprendre un peu au moment où ils parlent des anges, oui, qui commencent à se mettre ensemble comme des cellules pour se reproduire, donc ils prennent un peu la forme d'un
ils ont réussi à faire peur au rat. Faire peur au rat à Marseille, c'est pas donné quand même. Au panier, ils attaquent les chats.
Donc c'est vrai quoi, il y a. Enfin, c'est étonnant parce que créativement parlant, en fait, il y a quelque chose au niveau, je trouve, de l'objet qui peut adopter plusieurs formes, plusieurs espèces, plusieurs états, qui est à la fois justement destructeur, qui est un outil, je veux dire, de consommation courante, quelque chose auquel on prête forcément pas attention non plus. À Marseille, des sacs plastiques, malheureusement,
oui,
on en
a plein
beaucoup, qui volent aussi. Donc, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre un peu de, ben, peut-être de ta propre mythologie, en fait. Tu crées une mythologie par rapport à ça. Alors après, je ne sais pas s'il y a un point de vue, s'il y a une volonté de dénoncer quelque chose, mais tu as quelque chose en fait à dire par rapport au...
Bien sûr. Ce que j'ai à dire, c'est dans le film. Je n'arrive pas à l'exprimer comme ça avec des mots. C'est tellement chelou. Ce film, il est quand même assez étrange. Effectivement, j'ai pas écrit à propos de ça. Mais oui, il y a quelque chose de mythologique puisque on est sur une sorte de fin du monde et puis finalement une sorte de renouveau.
Et le choix de l'autocentrisme de la comédienne principale, elle vient d'où l'inspiration ?
Alors en fait, l'idée de ce film est venue pendant un coup de téléphone avec ma sœur qui était sur le Vieux-Port, je me souviens, à ce moment-là. Moi, j'étais à Valence à ce moment-là. Et je cherchais le thème d'un film. Je sais que j'avais très envie de faire un film fantastique en animation. Mais voilà, je n'avais pas encore ma bestiole, mon monstre et tout ça. Je cherchais l'inspiration. Et j'ai ma sœur au téléphone qui, elle, me raconte en fait sa vie intime. Elle était séparée de son mec avec qui elle était depuis 10 ans. Et voilà, elle était dans la trentaine, etc. Et moi, je me dis, bon, automatiquement, en tant que son frère, je me dis, mince, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'enfant. Si ça fait 10 ans qu'elle était avec ce mec, c'est l'âge où on se pose vraiment des questions d'avoir des enfants ou pas,
alors,
etc.
La biologie tourne, tu t'as dit.
Bon. Automatiquement, moi, sans qu'elle m'ait jamais parlé d'avoir une envie d'avoir un enfant ou pas, je me dis, mince, l'horloge biologique, ça doit être angoissant, en fait, ce truc-là.
Tout à fait, ouais.
cette urgence comme ça tout d'un coup.
Bah, encore plus pour les femmes ou pas, voilà, effectivement. Quoi.
Du coup, quand on quitte quelqu'un, il faut tout recommencer après ou pas. Enfin, voilà, donc c'était vraiment ce
oui,
conflit
est-ce que
intérieur
la fin du monde,
là.
Est-ce qu'on fait un enfant.
Que c'est... Et puis en plus.
C'est la fin de son monde.
Effectivement.
Bah, c'est le sujet principal quasiment du
voilà,
film,
c'est
quoi.
Ça. Donc ça part de là. Et donc pendant cette conversation téléphonique, elle me raconte ça, en fait. Pas ce désir d'enfant, mais ça, c'est moi qui me le fais dans la tête. Mais
ça inspire le personnage.
Tout d'un coup, elle se met à crier « Ah !» comme ça. Et là, il y a du bruit de plastique sur le téléphone. Comme ça. Et moi, je m'inquiète vachement. Je dis « Emily, qu'est-ce qui se passe ?» et tout ça.
C'est ma gêne, sa classique qui a volé du bord.
Et tout d'un coup, oui, elle reprend le téléphone. Et là, elle me dit « Mais je me suis pris un sac plastique dans la tête, dans la face, en pleine face, comme et ça. Ouais. Tout dégueulasse, un sac plastique qui vient là du trottoir tout mouillé du vieux port. Dégueulasse. » j'ai l'impression de me faire agresser voilà.
Et bim, là t'avais trouvé ton sujet et ton héroïne.
Je suis désolé, mais là franchement génial quoi. Je crois que génial, j'ai trouvé, je crois que ça y est, j'ai trouvé.
C'est une agression quoi.
C'est le voilà, bon, le monstre c'est le sac plastique, voilà. Donc ça vient de là effectivement. Donc j'ai fait un rapprochement ensuite après entre cette problématique, voilà, c'est-à-dire avoir un enfant et en plus l'urgence d'avoir un enfant, d'une part, parce que pour chez les femmes, ça peut être une urgence avec l'horloge biologique, mais en plus, l'urgence par rapport à une pollution, à une sorte de fin de l'humanité. Voilà. Et en plus, les sacs plastiques, là, qui arrivent et qui s'éveillent, ils n'ont plus les humains, en plus, il y avait la loi qui venait de passer au moment où j'ai commencé à fabriquer la loi qui interdisait la vente des sacs plastiques ou la distribution des sacs plastiques dans les magasins. Donc s'ils n'ont plus de moyens de reproduction, les sacs plastiques, comment ils vont faire pour perdurer? Parce que c'est le but de toute espèce vivante, c'est de se reproduire. Donc les sacs plastiques aussi
parlant de ça, justement, du principe des espèces de se reproduire, on va écouter le premier extrait de la nuit des sacs plastiques qu'on a sélectionné. C'est justement Agathe qui, au début du film, pose un peu les conditions, on va dire, de son objectif, de son but. Premier extrait.
Marc-Antoine, j'ai réfléchi, je veux un enfant avec toi. Bon, écoute, Marc-Antoine, j'ai très envie de faire un enfant. Pour moi, avoir un enfant, c'est... ça t'irait bien d'avoir un enfant, Marc-Antoine. Putain, fais-moi un enfant, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, Marc-Antoine. C'est une super idée, non?
On est de retour dans Témoins oculaires après ce premier extrait, donc avec Agathe justement qui parle en fait de son objectif, qui revient en fait à la recherche de Marc-Antoine, qui est interprété justement par Damien Bonnard. Comment ça se passe en fait par rapport à ça? Donc tu parlais justement de cette volonté des sacs, de la destruction, mais aussi justement cette envie féminine de retrouver son ex-conjoint, de peut-être reconstruire quelque chose avec lui pour...
Oui, bah là, du coup, nous, avec Patricia Mortagne, avec qui j'ai écrit le film, on s'est amusé, hein, tout simplement, à aller à fond dans les idées, c'est-à-dire que de pousser les curseurs à fond. Elle est complètement obsédée, du coup, par cette idée d'avoir un enfant. Donc, elle va chercher son ex, qui est en train de mixer dans une rave party, dans un bunker, à la Baie des Singes, dans les Calanques, à Marseille. Et voilà, moi, je pense que c'est pas du tout les bonnes conditions pour essayer de se reproduire quoi. Mais voilà, je sais pas, c'est ce que ça répond un peu au truc, mais effectivement c'est à ce moment-là que les sacs plastiques après vont prendre vie.
D'autant qu'elle revient après un break qu'elle a provoqué, tu vois.
Oui, en plus, c'est
l'autre, il n'a pas envie, tu vois.
L'initiative de la rupture.
Bah, on va écouter un deuxième extrait, du coup. Tout de suite, comme ça, on enchaîne. Il est 21h58, il nous reste peu de temps. Donc, on va essayer quand même de clore l'émission dans son intégralité. On va passer un deuxième extrait et on en parle ensuite.
Je regrette de t'avoir traité d'égoïste immature. Je le pensais pas. En fait, je trouve qu'on se complète bien. Et on ferait bien.
Attends, regarde, c'est toi qui as voulu faire un break, hein. C'est toi qui m'as dit.
Oui, je sais, c'est pas ce que je t'avais dit, mais j'ai changé d'avis.
Quoi? Ah merde! Agathe, je mixe là!
Et je disais, le fait que tu vives la nuit et moi le jour, je trouve ça super! Comme ça, on est sûr de ne pas se marcher sur les pieds!
Arrête, t'en avais marre qu'on se croise jamais!
Ouais, mais finalement, ça c'est ok! Et puis, ça fonctionnait bien entre nous, niveau cul!
Agathe, c'est pas le moment là! On se parle après, ça va?
Ouais, d'accord! C'est pas pressé, pressé, mais quand même, le temps file! J'ai bientôt 39 ans, tu vois!
On est toujours de retour dans Témoin Oculaire, donc on écoutait justement cet extrait-là où Agathe, elle est en train de presser en fait Marc-Antoine, hein, pour lui dire bah, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on accélère. Moi, j'ai pas beaucoup de temps devant moi.
J'ai une minute trente.
L'horloge.
J'ai une grosse minute trente.
Ouais, nous aussi, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, mais on va quand même aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que là, du coup, bah, en fait, la précipitation, ça les empêche aussi de voir ce qui se passe peut-être autour d'eux à ce moment-là, de voir peut-être les premières attaques justement des sacs plastiques. Donc il y a le chien du prophète qui se fait attaquer. Il y a d'autres personnes qui sont présentes à la soirée. Qui...
Ouais, bon, bah, chacun dans son petit truc, hein, chacun dans son ses petites affaires, quoi. Donc lui, il est là dans sa musique, là, puis le DJ de la soirée, puis elle est dans son objectif. Voilà, chacun dans son petit, dans ses petites affaires, dans ses petits problèmes, et en fait, ils voient pas le problème général.
Oui, ils sont chacun dans leur petit monde et ils ont pas conscience de ce qui se passe.
C'est Shaun of the Dead, ils voient pas.
Un peu Shaun of the Dead. Ah bah justement, on va pouvoir rebondir, on va pouvoir parler un peu juste de tes influences. Sur la nuit des sacs plastiques. Bon, j'imagine la nuit des morts vivants, peut-être. Hein,
oui, effectivement, forcément.
Romero.
Romero, ouais, même s'il n'y a pas directement, concrètement, de plan, etc.
Oui, mais il y a une ambiance, on va dire, mais qui rappelle un peu le voilà. Côté zombie.
Merci.
Côté...
En fait, c'est vrai que j'avais un moment, je me dis, mais je m'éloigne tellement que en fait, j'ai plus du tout de. J'y vois pas concrètement de référence. Quand j'ai, à la fin, quand j'ai terminé le film, j'ai revu les oiseaux de Hitchcock.
Et bah justement, ouais, il y a les oiseaux de Hitchcock.
Là, par contre, j'étais étonné de voir autant de similitudes, de points communs, quoi. Sur l'île, la femme seule avec un peu de libido, comme
le
ça.
Le rapport au sexe, tout à fait. Ouais, avec, puis quand se fait Marnie, ouais, se fait pincer le doigt. Là.
Puis ces monstres volants, quoi.
Pas
et,
Marnie,
Et puis le prophète qui est dans les oiseaux, c'est un alcoolique, quoi, qui est dans le bar et puis qui déclare tout d'un coup que oui ils vont être attaqués, etc. Ouais. Là, je suis ah non mais mince, c'est incroyable. Enfin, après ça arrive peut-être sûrement dans beaucoup de films comme ça d'attaques, etc. Je sais pas.
Non mais c'est peut-être des trucs qui t'ont influencé.
Non mais je pense qu'il y a des images comme ça qui me restent en référence.
Revenus, je pense que c'est un film qui a pu m'influencer quand j'étais petit.
Qui reste du coup un outil narratif, un outil grammatical de l'image. Et qu'on
moi quand j'ai réalisé mon premier court métrage, en fait, je me suis rendu compte que j'avais écrit quasiment Psycho. Plein de références
plagiat.
À Psycho et tout. Ouais. Pas plagiat parce que c'est pas la même histoire, mais dans l'ambiance et tout, ça rappelait énormément Psycho. Et pourtant, je l'avais pas revu depuis longtemps, tu vois. Mais c'est en fait, c'est un truc qui était resté tellement gravé dans ma mémoire que ça m'a influencé sans que je le sache. Et je pense qu'avec toi, ça a fait pareil pour les oiseaux, quoi.
Ouais, alors
c'est tellement
après,
un film matrice que du coup, boum, ça.
Donc, c'est très influencé, ça, du film de zombies, hein, voilà, Romero. Et la musique
aussi un peu ou...
Non. Je connais même pas.
Non, c'est un réalisateur italien qui a fait des films de zombies aussi, mais pas moins connu.
Et puis la musique, j'écoutais vraiment Zombie quand j'ai écrit le film. Donc Zombie, c'est un groupe d'électronique, hein, qui font il y a des batteries et tout ça, mais c'est aussi des synthés. Et,
Avec Étienne
Jaumet,
donc.
Avec Étienne Jaumet, qui a composé la musique du film.
Ah donc là, oui, là, c'est pas ton compositeur de Yule.
C'est pas Freddy, c'est pas mon pote de jeunesse, mais c'est Étienne Jaumet. Donc je suis allé voir avec un premier synopsis. Il jouait à Marseille et à ce moment-là, je venais juste de finir d'écrire ce synopsis deux jours avant. Et je dis, ça tombe, voilà, c'est un signe, ça tombe là. J'ai écrit synopsis en écoutant la musique de Zombie.
Ouais.
Là, ils viennent jouer. Non, là, ils venaient jouer tout seul, Étienne Jaumet. Mais c'est le mec qui est au synthé, donc moi, j'avais surtout besoin de ça.
Donc pareil, synthés. En fait, t'as travaillé en amont.
avec voilà. le compositeur.
Ouais, complètement. Et puis, et je lui ai raconté le truc. Je lui ai fait un dessin, quand même, de lui qui mixe autour des sacs poubelles. Il n'a pas très bien compris au départ, quand même. puis finalement, il m'a dit non, mais ça a l'air charmé, en fait. Vas-y, on va le faire, ouais. Voilà, donc j'ai continué après avec sa musique, en dessinant, etc. Donc c'était vraiment une grande influence. Il y a d'autres influences musicales, mais c'était vraiment la première. Et voilà, après en cinéma, il y a un truc que je faisais quand même, c'est qu'il y a quand même ces personnages qui c'était plus de ma vie autour de moi, etc., à ce moment-là. Ouais. Et puis mes sœurs, etc., des potes qui me parlaient des films de Romer. Alors, je suis pas trop fan
Eric Romer.
C'est exactement l'influence que j'ai eue quand il m'a dit il dessine sur les images. Et j'ai pensé à ce film où c'était les tableaux là, qui ressortaient. Là, c'est l'image que j'en ai eue quand il m'a expliqué la manière que tu avais de réaliser tes.
Ce truc, moi, je dis, c'est marrant. Enfin, ce qui m'amusait au départ, c'était ces personnages voilà, qui nous ressemblaient, en fait, des couples comme ça, qui parlent de leurs sentiments et savoir s'ils vont faire des enfants.
Oui, c'est vrai que c'est ça.
Donc je me dis, en fait, c'est ça, c'est marrant, c'est les personnages des films d'Éric Romer propulsés tout d'un coup dans un film de Romero.
Complètement, oui.
Et donc j'avais vraiment écrit mon premier film aussi, ça avait vraiment un effet de style comme ça, où on passait d'un truc très nouvelle vague, un peu musique... un peu comme ça, un peu sympa, un peu.
Bah, tu vois, même dès le début, quoi. La meuf, elle arrive, elle est en train de parler
et
de son.
Et puis, voilà, le truc qui dérape. Et ce que je faisais, c'est que je mettais les bandes annonces des films d'Éric Romer, que je mutais. Je mettais
T'as bien fait.
Et je mettais la musique de Zombie par-dessus. Je dis, voilà, ça donne à peu près le ton du film, quoi. C'est des gens dans des appartements, tout d'un coup, il y a une. Tout d'un coup, il y a une musique comme ça, apocalyptique, par-dessus ça. Et là, c'était à moi de travailler après.
Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que t'as la meuf qui est en train de parler, elle marche, elle est en mode « Oh là là, j'ai envie de faire un enfant, j'ai envie de faire... » C'est vrai qu'on dirait vraiment entre Godard et Romer, quoi. Mmh. Et puis elle passe un peu genre en arrière-plan. Enfin, oui, en arrière-plan, et à l'avant-plan, tu vois le mec qui sort pour pisser, machin, quoi. Encore quelque chose de tout à fait banal. Et d'un coup, paf, t'as le fantastique qui arrive avec ce sac qui rentre dans le champ et qui l'aspire. Presque, tu te dis, est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Ou est-ce que le mec a vraiment été happé par le sac plastique? Ou est-ce qu'il s'est juste pris un sac, tu vois? Et d'un coup, là, t'es vraiment happé dans le film et tu te dis, ah ouais, non, c'est pas juste un truc trois pièces cuisine Ikea qu'on va voir. C'est vraiment quelque chose d'autre chose. Enfin, vraiment... un monde plus fantastique, plus genre, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, comme tu disais, quoi, le basculement de Éric Romer à un film de zombies, quoi.
C'est ça qui a... Bon, après, il y a un truc qui m'a toujours un peu excité, d'ailleurs, non, c'est dès cette première scène, etc., hein, c'est tout le côté un petit peu dérangeant, un petit peu sexuel, mais un peu pervers de ces sacs plastiques aussi.
Ouais, ils sont un peu bizarres,
du coup, c'est
ça, quoi, carrément.
Ça peut être assez un peu dérangeant, quoi. Je me suis amusé, en fait, à faire tous les bruits de bruiter les sacs plastiques à la bouche.
Ah ouais.
En fait, avec des bruits de bouche qu'on
Ah, tu fais bien le chat.
Pour des raisons de bruit de jet, toutes les scènes sont bruitées à la bouche.
Voilà, non, mais c'est vrai que c'est amusant. En fait, je voulais quelque chose de très organique, comme de bestiole. Et voilà, donc les sacs plastiques font des bisous.
Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la référence de la fin du film qui m'a fait penser à la fin de Tommy, l'opéra rock des Who.
Ouais, qui est génial.
Et la musique et toute l'ascension, etc. J'ai retrouvé cette ambiance-là. Et ça collait très, très bien avec cette fin de... avec cette fin de narration et ce poème. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bon, on va passer sur un dernier extrait de La nuit des sacs plastiques, justement, où on est dans ces séquences-là où ça vire au drame, ça devient complètement fantastique, gore, horrifique. On va s'écouter ce dernier extrait.
Je voulais un enfant. Je voulais... un enfant.
Excuse-moi, Agathe. T'as raison, j'ai merdé. Maintenant, je me dis que t'avais raison. J'étais que dans ma musique.
T'es sincère, là?
Et voilà, c'était le dernier extrait donc de La Nuit des Sacs Plastiques. On est de retour sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Témoin Oculaire pour le cinquième numéro. On va clôturer cette émission. Guilin, il y avait peut-être un dernier sujet qu'on voulait aborder.
Moi, je disais en fait, de ce que tu disais, Gabriel, le son était vachement important pour toi. Et que du coup, en fait, tu avais fait le son sans l'image. C'était super important pour toi pour raconter aussi le film, en fait. De façon à ce qu'on comprenne le film sans voir les images. D'avoir que le son pour avoir toute la trame narrative et les émotions.
Je ne sais pas si tu veux parler du tournage. En fait, on a tourné, on a fait un tournage de 5 jours dans les. Donc, du coup, la baie des Singes, dans les Calanques. Pour la partie dans le bunker, la rive partie, là, on est allé à l'usine Rivoire et Carré, là où il y a plusieurs à la pomme. Mmh. Sinon aussi dans les Calanques, voilà, le petit club de plongée UCPA. Oui, encore une fois, c'était le son importait beaucoup pour avoir une d'entrée de jeu, en fait, une situation très réaliste et être happé par ce réalisme, en fait, même si c'est en dessin. Être happé par un objectif, des personnages comme ça de fiction, mais qui sont dans lesquels on est proche. Je tenais à avoir ce son assez naturaliste. J'ai beaucoup d'attention sur le son et je suis beaucoup plus sensible en fait au son.
Ah bah c'est souvent le parent pauvre du cinéma, notamment en France. Le son, pour moi,
c'est très important.
Pour moi, c'est le son qui me fait peur, c'est le son qui me donne de l'émotion beaucoup plus que les images. Ouais. Moi, je suis plus sensible au son, quoi. Et effectivement, j'ai toujours été inspiré, par la musique en fait quand j'écris. Ensuite, je suis assez pointu. Je suis parfois en dessin, dans les plans, dans la mise en scène, etc. Je doute beaucoup. Par contre, pour le son, je sais exactement ce que je veux. Il n'y a pas de problème, quoi. Ça file droit, quoi. Mm-hmm. Et là-dessus, on s'est bien amusé. Déjà parce qu'il y a un montage un peu cut comme ça entre la musique et puis ce personnage qui est obsédé par son truc, son. Son objectif d'avoir un enfant comme ça qui répète tout le temps.
Oui, qui a comme un leitmotiv musical presque.
Ouais, voilà. Qui est coupé ensuite par la musique parce que les sacs plastiques
qui
attaquent
rythmé,
et tout ça dans le survival, dans la poursuite, etc. Mmh, mmh. Et puis
les moments où elle arrache les.
Comme dans l'extrait là, justement.
Pas l'histoire, mais dans l'extrait, il se passe quelque chose de violence.
Ouais.
Une violence qui se réveille et puis il y a des splatch autour. Enfin, on sent qu'il y a une espèce de déchaînement et de presque de folie du personnage qui sort rien que par le son, quoi.
Ouais, c'est ça, oui, le son tout d'un coup là à ce moment-là devient vraiment gore et puis effectivement il peut faire référence au film de genre, quoi, vraiment.
Ah oui, bah là on est dans le slasher pur, quoi.
Ouais,
c'est elle qui devient la menace, quoi.
On se fait vraiment plaisir à ce moment-là et même au moment du bruitage, quoi, aussi, parce que là on est avec toutes sortes de petits objets où on cherche le son le plus dégueulasse possible et tout ça, quoi.
On appelle ça déjà le follet quand on reproduit en fait des bruitages avec des objets, justement. Je crois que c'est le follet, mais je suis pas sûr. C'est toute une technique en fait de
bah Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, on va devoir rendre l'antenne. C'est vrai qu'on a énormément de choses à dire.
Ah bah, écoute,
on est très passionnés, on adore le cinéma d'animation, puis on est vraiment tous les...
On s'en fout, on l'a en off, nous.
Tous les quatre en tant que passionnés ce soir sur les antennes de Radio Galère. Malheureusement, il est 22h13, presque, on a presque débordé d'un quart d'heure, donc on va devoir rendre l'antenne.
Là, ils veulent nous frapper, là, ça tape. Hein.
Ouais, mais on les voit.
Moi, je voulais juste dire que Spielberg, ouais. Il disait qu'on peut faire... Pour voir qu'un film est bien réussi, tu peux le voir avec que l'image et pas le son.
Ouais.
Et le tien, on peut le voir aussi avec que le son et pas l'image. Et ça marche dans les deux sens dans le cadre de ton film.
Ouais, merci. Je crois que c'est vraiment Pagnol qui faisait ça.
Ah ouais.
Qui écoutait comme ça les prises sans regarder.
Marco Ferreri faisait ça. Marco Ferreri,
ils l'ont tous fait en fait.
Ouais,
les
Marco
plus grands,
Ferreri,
les plus
Marco Ferreri se tournait en fait. Sur
bon,
les,
Pagnol
sur
le premier.
Bah, on va rester chauvin. On dira que c'est Marcel Pagnol qui l'emporte.
Encore voilà. Marseille.
En c'est Marcel Pagnol.
La force.
En tout cas, merci beaucoup Gabriel et vraiment encore félicitations pour le César du court métrage d'animation que tu as eu cette année. On est très fiers et très heureux de t'avoir reçu dans l'émission Témoin Oculaire. Tu es notre premier invité. Du coup, ben voilà.
Et tu juste une question parce que moi, ça, je veux juste savoir. Tu le mets où? Le César
sur la cheminée.
Ah, t'as une cheminée. Non, c'est traditionnel. Ça va être à Marseille, il va avoir une cheminée, c'est beau. Ouais.
Cheminée, ouais,
il est lourd.
Ah ouais.
Une question que j'avais toujours posée, s'il était lourd ou pas.
C'est lourd, ça pèse. Hein.
Ah ouais.
Ah ouais.
C'est quoi en fait? C'est que du.
Non mais c'est.
C'est que de l'or massif.
Non, ça peut faire tirelire, c'est creux à l'intérieur.
Ah, c'est creux à l'intérieur. D'accord.
Bah voilà, si t'as besoin d'une avance sur recette, tu peux toujours la mettre dans le César, quoi.
Voilà, c'est ça.
Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas à nous suivre sur les antennes de Radio Galère. On va se quitter avec un morceau de musique de Zombie. On en parlait justement tout à l'heure. Le morceau s'intitule Driving This Road Until They Set You Free.
Yeah, One Again.
Yeah, One Again. C'était le morceau qui a été utilisé pour un clip qui était très bien parce que c'était de l'animation image par image avec un clip qui était sorti, je crois, en 2008 de Zombie, où il y avait une animation qui reprenait en fait les images du film The Thing de David Cronenberg que les mecs avaient fait donc en image par image avec des G.I. Joe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, mais c'est un clip qui est très très bien. Vous le retrouvez. La musique est assez sympa.
Ouais, c'est quoi le titre?
On me cherche quoi.
Ouais.
C'est Driving This Road Until Death Set You Free.
Ouais, bah, tu me l'enverras sur Messenger.
On se retrouve début avril le 7 normalement pour la prochaine émission de Témoin Oculaire. Merci à tous, félicitations encore une dernière fois Gabriel, merci Guilin, merci Mika,
merci Radio Galère,
merci Mathieu, merci Sidi et à très très bientôt. Merci à tous. C'est bon, c'est parti.
Allez, musique.
Non, on est encore en air.
On fait une petite photo pour la fin.
Avec un petit split, avec.